Cet épisode aborde des notions sensibles, dont la question du suicide dans les communautés trans et non-binaires. Si vous ou vos proches avez besoin de ressources sur ces questions, vous en trouverez dans la description de l'épisode. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je suis avec Florence Ashley qui porte plusieurs chapeaux. Mon Dieu, par où commencer? Donc, Florence est professeure en droit à l'Université de l'Alberta, bioéthicienne, chercheure transdisciplinaire et activiste qui cherche à comprendre comment utiliser le droit et la médecine pour améliorer la vie des personnes trans. Bonjour, Florence.
Bonjour, Émilie.
Ça fait vraiment plaisir que tu sois avec nous. Tu es aussi l'auteur d'un livre qui vient tout juste d'être publié qui s'appelle « Gender/Fucking, The Pleasures and Politics of Living in a Gendered Body ». On va parler aussi, bien sûr, du livre ensemble. D'abord, dans un premier segment, des nouvelles politiques sur l'identité de genre en Alberta qui suivent ce qui se passe avec les droits des personnes trans actuellement au Canada. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français.
Not long ago, I began to play with an idea in my head. What if I conceive of activism as a palliative endeavor rather than one guided by a utopic end? In palliative care, living past illness is no longer the goal, something of a ritual and much of a prayer. Its goal is to ease pains, like a balm after the sun, to cultivate comfort and love among the suffering. How do you help in a world on fire? What do you do when you run out of water? Cuddle and fuck. Aren't the flames pretty? Let them set the mood. Suck a dick. Eat pussy. Build a bookcase. Write a poem for the friend you're crushing on. Kiss your lover under a rain that pours like nails from heaven. Leave your damp clothes on the floor and shower with your bodies held together for warmth like mouse birds. Love one another because the world sure fucking won't. Palliative activism is a joyful or at least a content pessimism. Maybe even an optimistic fatalism. Or fatalistic optimism? I don't know what words mean anymore. If we're doomed to suffer, maybe we can ensure that there will be love among the suffering. An outgrowth of my hopelessness, in palliative activism, I would give up my hopes for revolution and justice, replacing them with comfort in the now and then. Like revolutionary struggle, its progenitor, palliative demands change. Yet its demands are not in the hopes of crafting one day a just future, but to reduce the pain and injustices that so many carry on to the end of days. If you're still capable of hope, then hope I envy you. But I must figure out how to go on when weariness cuts you bare. No, I don't want to give up on systemic change, nor turn away from justice. I want to hold and cradle them in my arms, warm them and hold them close to my heart. But I know that this won't do anymore, not without faith. But perhaps I can hold on to them if I approach with a mind towards harm reduction rather than a teleological attitude that besets me with unkindness. To reduce suffering and hold each other in kindness and care is still an activism. Giving up cannot be palliative, nor can liberalism. We do not diminish misery, at least not well, by helping only those most privileged among us. Even if the revolution never comes, liberal reformism cannot be square with the materialism of palliative activism. A wish for life, not formalities, not rights for the rich, marginals. And besides, you and I both know that there's no fun in kissing up to the powers that be. Their asses aren't that soft. Pleasure lies in the fight. May the bridges we burn offer warmth and comfort. We must imagine Sisyphus happy.
Merci pour la lecture de cet extrait de ton dernier livre, que je sais même pas comment qualifier vraiment. On pourrait dire autobiographie, autothéorie, essai. Je pense que le mot essai inclut tellement de différents sous-genres. C'est un livre, et on va y revenir dans la deuxième partie de la conversation. C'est un livre qui explore un ensemble de thèmes qui te sont très, très, très chers et très, très, très personnels. Mais j'avais envie de commencer notre discussion par cet extrait-là, parce qu'il parle essentiellement d'une manière de continuer à prendre soin les uns des autres dans un monde où il reste très peu d'espoir. Et je trouvais que la notion d'activiste palliatif très forte parce qu'elle, elle nous permet de continuer à aimer, à prendre soin de l'un de l'autre et peut-être à imaginer autre chose dans un monde où il resterait peu d'espoir. Florence, tu viens de commencer comme professeure à l'Université de l'Alberta. Tu es une personne transféminine. Il vient d'être annoncé un ensemble de mesures sur lesquelles qu'on va détailler bientôt en Alberta contre les personnes trans. Premièrement, comment ça va? Et est-ce que tu es toi-même en mode activiste palliatif ou tu fais aussi d'autres formes d'activisme encore?
Écoute, je te dirais que je vais envoyer ma facture de mes nouveaux antidépressants à Daniel Smith. c'est pas un moment facile, puis surtout en première année d'enseignement, quand il y a tellement de choses à faire, puis tu sais, prendre soin du corps étudiant qui, pour la majorité, n'est pas du tout concerné par ces changements-là, puis devoir juste comme être capable de gérer ça en tant que prof, c'est assez lourd. Je pense que je suis vraiment en mode d'activisme palliatif dans le sens où comme j'ai pas vraiment grand espoir qui me reste, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de souligner beaucoup, tu sais, on va se battre, on va faire de notre mieux pour que ces politiques-là passent pas, puis je veux dire, même si on réussit à se battre contre, ça veut pas nécessairement dire que ça nous redonne de l'espoir à long terme, mais ça rend le monde un petit peu plus facile à vivre pour le moment. Mais j'ai aussi essayé, tu sais, j'essaie aussi de rappeler aux gens que, tu sais, oui, bon, faut se battre contre ces politiques-là, c'est super important, mais même si on réussit à les battre, notamment en cours, ça va prendre des années, tu sais, fait qu'il faut vraiment être capable de prendre soin des jeunes trans autour de nous, des personnes trans autour de nous dans le présent, parce que, tu sais, si on les oublie pendant 2 ans, alors qu'on se bat en cours ou on fait des rallyes politiques, tout ça, c'est bien, mais il faut aussi être là, il faut avoir cette présence-là dans la vie des personnes trans autour de nous. Il faut être capable de d'avoir des sphères aussi où les gens peuvent se déconnecter. Puis c'est vraiment difficile pour les personnes trans ces temps-ci. Il y a tellement de choses désastreuses qui se passent que c'est très difficile de déconnecter du cycle médiatique, puis de toutes les horreurs qui se passent, puis à un moment donné, c'est que ça devient en soi traumatisant, juste le cycle de nouvelles.
Souvent, les gens pensent que l'activisme ou être un allié, c'est par exemple aller préparer le recours à la cour pour empêcher ces lois-là de continuer à exister. Finalement, tu dis, ben, t'as pas besoin d'être un avocat, puis d'être en train de faire ça pour être un allié, c'est aussi ou d'être dans le soin de la communauté, c'est une personne trans ou non-binaire toi-même, c'est juste une question de faire le travail du soin dans le quotidien. Je pense que c'est un rappel très, très important. Avant d'aller plus loin, je ne présume pas que tout le monde sait exactement quelles sont les lois qui sont proposées en ce moment. On en a déjà parlé à l'émission lorsque la révision de la politique 713 avait été adoptée au Nouveau-Brunswick à l'été passé. Depuis, il y a eu la loi 137 qui a été adoptée en Saskatchewan avec l'utilisation de la clause non-obstant. Ces deux lois-là limitent les droits des enfants trans et non-binaires qui veulent, par exemple, changer de prénom, de pronom à l'école. On force essentiellement, notamment les enseignants, les équipes écoles, à avertir les parents aussitôt que les enfants sont en questionnement sur leur genre, même si ces parents-là sont pas nécessairement des personnes sécuritaires pour les enfants. Il peut y avoir des parents transphobes, mais on sait qu'une des principales causes de violence contre les enfants trans non-binaires et même d'itinérance, c'est lorsqu'il y a des familles qui n'acceptent pas l'identité des enfants. Donc, il y a tout un débat politique autour de ça un peu partout au Canada qui a été, disons, présenté par les mouvements conservateurs comme les droits parentaux versus donc le droit de la défense des personnes trans et particulièrement des mineurs trans. Daniel Smith en rajoute Et en plus d'avoir des mesures similaires à ce qui a été déjà adopté en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, on rajoute aussi des politiques pour interdire aux enfants de moins de 17 ans des traitements hormonaux, des bloqueurs de puberté et des chirurgies affirmatives de genre. C'est des mesures qui ressemblent à certains États aux États-Unis, comme la Floride, le Texas. Il y a un ensemble de lois, on parle de dizaines de lois qui ont été adoptées qui font reculer les droits des personnes trans, et en particulier des mineurs, des enfants trans un peu partout aux États-Unis. Puis au Canada, ben on suit la tendance. Ça met du contexte sur pourquoi est-ce qu'on a commencé l'émission avec la notion de palliative activism. Mais cette notion-là de soins palliatifs, elle est aussi là parce que, dans un sens, c'est ce qu'il nous reste à faire parce qu'on est quand on est paralysé par la peur. De quoi as-tu peur concrètement, Florence, qui se passe dans les prochaines années ou dans les prochains mois ou qui est déjà en train de se passer sur le terrain?
On a vu en Oklahoma juste il y a quelques semaines un jeune non-binaire, Nex Benedict, qui s'est fait dans le fond tabasser et a mouru, dans le fond, été hospitalisé à la suite de ses blessures et donc sa mort a suivi. Pas trop longtemps après. On parle quand même de personnes qui se font tuer. Puis de plus en plus des jeunes trans, ça c'est quelque chose qui me fait très peur. J'ai peur d'autres suicides, je veux dire. Je pense que c'est impossible d'être dans les communautés trans plus que quelques années sans connaître des gens personnellement, avoir des amis qui ont perdu leur vie de leurs propres mains. J'en parle même un peu dans le livre. Le premier chapitre, je l'avais écrit dans une journée quelconque, puis j'étais en train de commencer à le réviser le lendemain matin quand j'ai appris que une amie était décédée. C'est un peu rentré dans mon écriture de l'article, puis du poème qui est tout de suite après. D'article, je veux dire, du chapitre et du poème qui est juste après, mais je connais trop de gens qui ont perdu leur vie, puis ça me fait peur de perdre toutes ces personnes-là autour de moi. Ouais, puis c'est un peu difficile à... Je pense que c'est vraiment difficile de communiquer à quel point c'est omniprésent pour les personnes trans, la violence, puis le suicide. C'est vraiment... difficile à verbaliser, fait que j'ai peur de ça, j'ai peur de la violence envers moi-même, mais surtout envers les autres. Peut-être parce que j'ai pas de temps, j'ai peut-être pas un hyper gros réflexe d'autopréservation, mais préserver les gens autour de moi, c'est quelque chose qui m'est très important. Fait que c'est vraiment... Je pense que c'est surtout de ça que j'ai peur.
Merci de le prendre le temps de le nommer de manière aussi explicite, Florence, parce que il y a beaucoup de monde au Canada qui parle de ça pour promouvoir ces projets-là, mais même les gens qui sont pour parfois, hein, mais qui sont loin des communautés et des personnes, qui réalisent pas que c'est une question de vie ou de mort. Et là, même la question de... débat identitaire. Les termes qu'on utilise dans les médias pour parler de ça, ça devient souvent, je trouve, très très théorique. Il y a beaucoup de gens qui parlent qui, en bon français, don't have any skin in the game. ont pas de risque. Il y a beaucoup de causes dont on pourrait parler de pourquoi ces politiques-là sont en place, pourquoi est-ce que c'est populaire d'avoir ces débats-là. Il me semble que ça, c'est un des éléments. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent, en fait. Pour toi, pourquoi est-ce que ces politiques-là sont mises en place maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant, là, ou depuis un an ou deux, qui fait que maintenant, c'est ça la mode, c'est ça l'obsession?
Oui, pour moi, c'est vraiment, en fait, une culmination d'un projet de suprématie blanche, en fait. On voit vraiment une montée d'anxiété démographique aux États-Unis, puis... peut-être moins au Canada, mais quand même, qui monte au Canada aussi, où il y a, on dirait, une peur que les personnes blanches perdent le pouvoir dans le contexte sociopolitique puis économique. Et cette peur-là se voit un peu comme transformée en un désir de reproduction. C'est pour ça qu'on voit beaucoup des lois anti-avortement aux États-Unis. Et
tu vois un lien entre les combats, le recul des droits de reproductifs, puis le recul des droits des personnes trans.
Absolument. Je veux dire, dans le fond, c'est un peu ce message-là où être femme, c'est se reproduire. Être homme, c'est jouer un autre rôle dans cette reproduction-là, mais aussi un rôle de production économique. Et on envoie le message que, dans le fond, ça, c'est notre nature, c'est notre rôle divin. Puis là, tu vois des personnes qui rejettent cette nature-là qui est comme importée ou projetée sur la biologie. Donc, les personnes trans disent « Ouais, mais non, moi, je me vois pas dans ce rôle-là biologique. » Et quand tu dis ça, ben, ça vient à un peu démontrer les failles dans le message, dans ce message de reproduction-là qui est promu pour augmenter le pouvoir, dans le fond, de la population blanche. Puis c'est même pas... Ils s'en cachent même pas, là. Je veux dire, tu peux aller voir ce que dit Mitch McConnell puis du monde de même, où ils disent on a besoin de plus de monsieur blanc fâché, tu sais. Puis des gens qui disent les personnes blanches ne reproduisent pas assez. Puis, tu sais, c'est vraiment un discours qui est très ouvert aux États-Unis. Et ce discours-là amène à cette notion que les personnes trans, c'est une distorsion de la nature, c'est contre-nature, c'est des mutilations et tout ça parce que c'est une façon de renforcer le message de la nature genrée, de ce genre d'essentialisme du sexe, qui sert à début d'organisation sociale, surtout sur le plan de la reproduction. Donc, c'est vraiment un peu un byproduct d'une anxiété socio-économique et démographique qui se voit galvaniser envers les personnes trans comme étant un peu une manifestation, dans le fond, du pire rejet de cette idéologie-là.
Il y avait même, il y a quelques semaines, une pétition qui circulait, toutes sortes de théories du complot qui circulent, qui deviennent de plus en plus populaires sur le fait essentiellement que l'Organisation mondiale de la santé et les experts en droit des personnes trans sont là pour essentiellement vouloir... reprogrammer l'humanité d'une manière à les rendre stériles et détruire la civilisation occidentale. Donc, il y a toutes sortes de théories du complot qui circulent qui vont absolument dans le sens de ce que tu avances. Donc, ça fait écho à ce que tu dis. Pour revenir au concret là, de ce qui est adopté comme loi spécifiquement en Alberta, comment est-ce qu'on est en train ou on risque d'entraver, tu crois, l'accès aux soins de santé liés à l'affirmation de genre? Qu'est-ce qui risque de changer pour les gens qui connaissent peu ces réalités-là en ce moment? Ou qu'est-ce qui est en train de changer au niveau de l'accès aux soins pour les enfants et les adultes trans en ce moment en Alberta?
Ouais, fait que le plus gros changement de loin, c'est vraiment le changement par rapport au bloqueur de puberté, parce que le but d'un bloqueur de puberté, en fait, ça a toujours été déjà un peu une solution compromis dans le sens où c'est pas particulièrement nécessaire à la transition de genre, mais c'est une façon de dire ah ben ça laisse plus de temps aux enfants à mieux comprendre leur genre et tout ça avant de s'engager dans la route des thérapies hormonales et donnant plus de temps justement en dans le fond faisant un peu en prévenant le corps de vivre une puberté endogène à ce moment-là. Donc, ça fait une pause par rapport à la puberté qui sera vécue plus tard, qu'elle soit endogène ou exogène, donc que ce soit une question d'arrêter les bloqueurs de puberté versus que ce soit question de commencer des hormones prescrites. Et là, ça ne sera pas permis jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors que, bon, à l'âge de 16 ans, la puberté, le gros de la puberté est fait, tu sais. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que on parle d'une immense détresse pour beaucoup de ces jeunes-là qui vont être obligés de vivre une puberté forcée qui ne correspond pas à leur identité de genre,
C'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre, là, c'est la détresse psychologique lorsqu'on on a un corps qu'on voit se transformer dans un sens qui correspond à l'identité qu'on a.
Oui, donc beaucoup de dysphorie de genre. Puis, plus que ça, je pense qu'il y a un aspect aussi, un impact négatif développemental beaucoup plus large que ça, parce que essentiellement, on dit à l'enfant, on ne fait pas confiance à tes connaissances de soi, on ne fait pas confiance pour comprendre qui tu es. Puis ça, c'est quelque chose que t'amène à l'âge adulte de dire, ah ben, moi, mes connaissances les plus profondes, tu sais, c'est pas des connaissances de surface, là, on parle des choses, mon sentiment le plus profond de qui je suis, c'est quelque chose qu'on devrait pas écouter. C'est quelque chose qui est pas important.
C'est une forme de gaslighting.
Oui, c'est vraiment du gaslighting, puis ça, c'est vraiment néfaste pour le développement. Puis en plus de ça, il y a tout aussi l'aspect social. Je veux dire, ça peut être très, très difficile d'avoir des relations sociales, de juste de pas rester enfermé dans sa chambre si t'as un corps qui te ressemble pas dans ta tête, tu sais, qui ressemble pas comment tu te vois, et aussi qui va être plus souvent mégenré par les personnes autour de toi. Quelque chose aussi qu'on voit beaucoup dans les relations plus amoureuses, ça pousse un isolement puis un repli sur soi.
Merci pour ces explications-là, parce qu'encore une fois, pour les gens qui ont pas de personnes trans dans leur vie, ça peut devenir très abstrait ce dont on parle. Et je pense que c'est important d'essayer de réduire cet écart-là le plus possible. Quand on parle aussi des changements médicaux, il y a toutes sortes de choses qui circulent dans l'espace public sur, notamment Daniel Slick qui parle des chirurgies génitales. Je pense que c'est important, peut-être, je profite de ta présence au micro pour faire des rappels à la réalité de ce qui est légal ou pas légal, ou de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas déjà chez les enfants. Je pense qu'il y a énormément de mésinformations ou de désinformations qui circulent. Les gens sont pas informés, en fait, sur les pratiques.
Ouais, surtout au niveau des chirurgies. Donc, de un, les chirurgies génitales, c'est généralement, on parle de quelque chose qui se fait déjà à 18 ans et plus. Il y a eu comme quelques exceptions à l'occasion dans l'histoire du Canada, donc c'est pas absolument zéro en bas de 18 ans, mais c'est excessivement rare, et c'est généralement, on parle de jeunes qui ont comme 17 ans et demi, genre, alors que leur identité de genre est affirmée depuis qu'ils ont comme 6 ans, donc, tu sais, c'est souvent des cas où il y a... Donc, on parle de jeunes qui sont très matures, qui sont amplement capables de... Oui, c'est ça. Et dans l'ensemble, généralement, c'est très, très, très exceptionnel des chirurgies génitales avant l'âge de 18 ans. C'est pas quelque chose qui se fait vraiment au Canada.
C'est intéressant parce qu'il y a aussi... ça montre beaucoup de choses sur la manière dont les idéologies sont très présentes dans ce qui est autorisé ou pas dans le système médical, parce que il peut avoir, si j'ai bien compris, des mineurs qui ont des mastectomies parce que essentiellement ce sont des garçons, cisgenres, qui ont juste développé des seins. Et là, il n'y a pas de problème. On corrige l'affaire, vous comprenez-vous, pour aider ces jeunes garçons-là à pas avoir justement de dysphorie de genre et à correspondre à l'idée de ce qui se font de leur corps masculin. Et ça, il n'y a aucun problème. De la même manière dont pour les enfants intersexes, c'est encore très commun, hein, pour les docteurs de corriger sans avoir de problème. Et puis les bloqueurs de puberté, c'est aussi, encore une fois, si j'ai bien compris, quelque chose qui est très utilisé lorsqu'il y a, par exemple, des problèmes endocriniens ou des problèmes hormonaux, ou lorsque la puberté commence tellement tôt, tellement rapidement qu'on peut avoir des enjeux, notamment de croissance, la puberté se termine trop tôt parce qu'elle a commencé trop tôt. Donc, il y a un ensemble d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le fait d'être trans qui fait en sorte que ces chirurgies-là peuvent parfois, dans certains cas très précis, être utilisées. Et ça ne cause pas de problème à personne. C'est vraiment la transidentité qui est le problème et non pas les interventions sur les enfants. C'est incroyable.
Alors que, surtout dans le cas des interventions pour les jeunes intersexes, ça devrait vraiment être un problème. On parle de quelque chose qui est souvent vécu comme un traumatisme, qui est vécu comme une agression sexuelle, qui mène à du stress post-traumatique, qui mène à une perte de sensation génitale, et le tout sans consentement éclairé de la personne concernée. Souvent, c'est juste l'imposition d'un point de vue des parents ou de l'équipe médicale. Donc, c'est vraiment, ça démontre à quel point tout ça, ça a vraiment rien à voir avec le consentement, avec la maturité des jeunes, et tout à voir avec l'imposition de normes genrées.
En terminant cette partie-là de notre conversation, tu viens de le nommer, la question des parents qui imposent leur vision des choses. Qu'est-ce que tu réponds à cette notion-là de droits parentaux qui est brandie par les conservateurs en Alberta, mais aussi un peu partout dans différentes provinces et certainement au niveau fédéral aussi par Pierre Poilievre, cette notion-là de droits parentaux?
Pour moi, les droits parentaux, c'est une idée perverse. Les parents ont une autorité légale qui doit être exercée dans le bien-être de l'enfant. Donc, c'est important que les parents aient une autorité légale. Ça leur permet de faire des choses importantes, mais c'est une autorité qui doit être vraiment exercée vers le bien-être de l'enfant. Et le moment où ce n'est plus le cas, les parents ne devraient pas avoir le droit d'aller à l'encontre du bien-être de l'enfant. Les enfants ne sont pas des choses, ne sont pas la propriété de leurs parents. Ce n'est plus le cas en droit. Ça fait longtemps que c'est plus le cas en droit, puis c'est un bon changement. Donc, pour moi, l'idée de droits parentaux, de droit de je fais ce que je veux, peu importe si ça va à l'encontre du bien-être de mon enfant, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter. Et c'est aussi quelque chose qui va aussi à l'encontre de cette idée que les jeunes ont des droits constitutionnels, mais aussi ont des droits sous la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, qui dit notamment qu'ils ont un droit au respect de leur perspective à la mesure de leur maturité. Et donc, cette idée de droits parentaux, de « je fais ce que je veux », c'est vraiment incompatible avec ça.
Avec la notion de droit de l'enfant, pour laquelle il y a eu énormément de combats tout au cours du 20e siècle, parce que ça n'existait pas longtemps, la notion de droit de l'enfant. Les enfants étaient essentiellement la propriété personnelle des parents. Et puis, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir dans le débat public à cette notion-là, carrément.
Oui, puis c'est vraiment intéressant aussi de voir, en fait, à quel point c'est récent, cette notion de droit parentaux, parce que il y a un bon livre de Jeffrey Shulman qui est professeur de droit à Georgetown qui explique justement que c'est une notion récente et même comme dans aux États-Unis autour de la Révolution, déjà cette idée de droits parentaux n'était pas vraiment, était plutôt rejetée en faveur d'une idée que, en fait, les enfants sont principalement les enfants de la patrie. On s'entend qu'il y a beaucoup d'enjeux puis de complexité au niveau du nationalisme derrière ces idées-là, mais il y avait cette idée que c'est les enfants de la nation, de la patrie, et que les parents sont en fait un peu des gardiens qui s'occupent des enfants à la place de la patrie, mais ultimement, les « entre guillemets vrais parents », c'était le pays.
Merci pour l'explication légale. C'est bien d'avoir comme personne experte d'un ensemble de domaines, dont le droit, dont la question médicale et dont la question littéraire. Merci, merci vraiment d'être là avec nous, Florence.
My gender is tired. It is old and leathery. It has scars and crow's feet. One day I'll trade it in for a new one. Like this one replaced the old when I noticed it didn't fit anymore. Or maybe it's not my gender that's tired. Maybe it's me, tired from reading the comment sections of my newsfeed. It feels like all I am is my gender. I can't feel where it ends and where I begin. My gender is tired. It is old and leathery. Or maybe that's just me.
Merci Florence pour cette lecture de cet autre extrait de ton dernier livre, parce qu'en fait, il y a de la poésie aussi dedans. Il y a toutes sortes de choses.
Il y a eu beaucoup de personnes qui sont intéressées à l'aspect de la poésie qui est dans le livre, puis je ne m'attendais pas à ça, parce que pour moi, c'était vraiment comme... J'ai mis la poésie, je pense pas... Je me vois pas vraiment comme une bonne poète, et donc, même si j'aime parfois écrire de la poésie, pour moi, c'est un peu comme des pièces de gingembre entre deux morceaux de sushi. C'était plus comme une façon de se regrounder,
ouais,
puis de se préparer pour le prochain chapitre. C'est le fun de voir la réception sur le plan poétique du livre.
C'est intéressant parce que effectivement, c'est une bonne C'est une bonne analogie, le gingembre en deux morceaux de sushi, mais c'est aussi que, de ce que je comprends, hein, de ce que tu fais dans cet essai-là, c'est aussi une forme de revendication de ta liberté sous toutes les formes, y compris la liberté de, et on le voit dans ce poème-là, d'avoir une fluidité dans ton identité de genre. Puis, je dirais qu'il y a une fluidité aussi dans l'identité de genre littéraire qui est là dans tout, exactement. Donc, en fait, le fond suit la forme.
Ouais, donc une liberté de genre littéraire et de genre humain.
Mm-hmm. Est-ce que ça a été libératoire aussi d'écrire le livre? Parce que dès le début, tu écris littéralement que tu as écrit ce livre-là plutôt que d'aller en thérapie. Donc, est-ce que ça a fonctionné?
Ouais, je pense que c'est un... Le livre a été très thérapeutique. En fait, l'écriture a été très thérapeutique. C'est intéressant. On dirait que je pense que j'ai pu passer à une prochaine étape de guérison de certains traumas et tout avec l'écriture du livre. Ça a été assez intéressant. J'en parlais avec quelqu'un que je fréquente ces temps-ci, puis que je disais que on dirait que j'ai comme changé une fois le livre fini, fait que ça a été intéressant comme expérience. Puis ça, oui, je pense que ça a aidé, puis je pense que ça aide les personnes qui le lisent aussi. J'ai eu beaucoup de commentaires sur cet aspect thérapeutique-là. En anglais, je dis beaucoup, puis c'est, je pense que je l'ai même mis en quatrième de couverture, mais je parle de cette idée-là de academic smut. Mais il y a quelqu'un qui a dit ouais, mais ça pourrait être aussi décrit comme smut therapy, donc la thérapie par écriture érotique. Puis je trouvais ça intéressant comme idée.
Est-ce que c'était ça ton intention, d'aider les gens en écrivant ce livre-là? Parce que tu es très vulnérable dans le livre. Tu parles de tes expériences romantiques, de tes expériences sexuelles, de ta transition, de tes chirurgies. C'est des sujets que plusieurs personnes trans hésitent, ou plusieurs personnes tout court, hésitent à parler en public. Est-ce que le but de te révéler comme ça, c'était explicitement d'aider les autres ou c'était d'abord pour ta propre prise de parole?
Je pense que c'est une façon de connecter avec les gens. Connecter a toujours été quelque chose que j'ai un peu de difficulté avec. Et donc, je pense que c'est une façon de connecter avec les gens. Puis je pense que c'est une question de... j'ai tellement évité de parler de mon parcours de bien des façons à travers les années. Puis même là, tu sais, comme je pense que d'une certaine façon, je parle de mon parcours et en même temps pas. Dans ce livre-là, tu sais, on voit, c'est plus comme des vignettes de parcours, mais qui donnent vraiment une histoire très, très partielle, parce que je m'intéresse moins aux faits biographiques qu'à l'aspect plus comme thérapeutique ou même existentiel de ces pensées-là, puis de cette expérience-là. Puis pour moi, malgré le fait que tant autour du livre tourne autour d'être trans puis de la transition, je vois même pas ça comme un livre trans d'une certaine façon.
Comment tu le vois?
Je le vois vraiment comme, en fait, tu m'as donné un beau mot en français pour ça, le bordélique. C'est vraiment le bordel de l'existence humaine que je voulais vraiment souligner, puis ça donne que, ben, étant trans, la majorité de mes expériences de ça passent à travers le fait que je suis trans, mais c'est avant tout essayer de souligner des vérités qui sont beaucoup plus grandes que moi. Et je pense que j'essaie vraiment, t'sais, à travers le livre, de parler de choses qui sont, oui, trans, mais tellement plus que trans, que ça devient une façon de parler d'enjeux plus gros, d'enjeux tellement humains, à partir d'expériences qui sont vraiment particulières à ma vie en tant que personne transféminine.
Si je peux donner un exemple pour les gens qui ont pas lu le livre, que je trouve très parlant de ce dont tu décris, tu as un chapitre où tu parles de Frankenstein et du monstre et l'idée que lorsque qui est très présente dans les craintes que les gens ont des chirurgies que certaines personnes trans subissent, qu'en faisant cette transition là, on devient une forme de monstre essentiellement, c'est ça la crainte que les gens ont. En fait, tu joues avec cette idée-là de monstruosité et puis tu es en train de dire que finalement, même les cicatrices des transformations, c'est comme si c'est une manière, au final, de réfléchir ou de t'ancrer même encore plus dans ton humanité plutôt que d'en sortir. C'est un des exemples, mais il y a comme plein de moments dans le livre où, justement, à partir de la condition trans, on va appeler ça comme ça, c'est comme si j'ai l'impression que tu arrives à des moments de philosophie sur... finalement, c'est quoi la condition humaine? Quelles sont ses limites? Et jusqu'à quel point on peut fuck avec les limites? Essentiellement, c'est un peu ça. C'est un peu ça que tu théorises, j'ai l'impression.
Oui, et puis, tu sais, pour moi, il n'y a aucune condition humaine qui est là pour tout le monde. Donc, je pense que l'idée que l'identité trans ou l'être trans serait moins un exemple légitime de la condition humaine. Tu sais, pour moi, je pense que c'est une des idées que j'essaie de push back contre avec ce livre-là. C'est de dire, oui, bon, mes expériences sont uniques en tant que personne transféminine, mais toutes les expériences humaines sont uniques. C'est un peu ça le bordel humain. Et c'est ça qui m'intéresse puis que je trouve tellement intéressant. Dans la vie est quelque chose que j'essaie de transmettre avec ce livre-ci. Donc cette idée-là de dépasser un peu l'expérience individuelle pour parler d'expériences qui nous dépassent, qui transcendent notre expérience personnelle, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le livre. Donc c'était vraiment ça l'idée.
Florence, on a commencé l'émission en parlant d'activistes palliatifs dans un monde où il y a très peu d'espoir à court terme que les choses s'améliorent au niveau des politiques publiques pour les personnes trans. Puis on termine l'émission en parlant, en tout cas moi je sens dans ta voix en ce moment beaucoup plus d'espoir parce que tu parles de création puis de communauté et de la manière dont tu vois déjà que le livre a un impact sur d'autres personnes qui se reconnaissent dans ton expérience ou dans ce que tu essaies de faire. Est-ce que avec l'écriture, avec la conversation, avec la création, est-ce qu'il y a là encore la forme d'espoir qui est peut-être perdue dans d'autres dimensions de la vie, disons, publique?
Oui, moi je pense que c'est toute une question de c'est quoi qu'on a espoir, parce que j'ai peut-être pas d'espoir dans le futur, mais j'ai espoir en nos communautés, j'ai espoir en l'amour, j'ai l'espoir avec tout le monde qui est autour de moi, j'ai l'espoir en l'humanité. Donc, même si les choses s'amélioreront peut-être pas parce que un moment donné, on a un deadline des changements climatiques qui vont nous tomber dessus.
Oui, il y a ça aussi. Oui.
Il y aura toujours cet aspect d'amour, cet aspect de communauté-là qui disparaîtra jamais complètement. Puis ça, je pense, c'est quelque chose à quoi il faut vraiment s'arrimer.
Merci beaucoup, Florence, pour ça. C'est tout pour Détour cette semaine. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Florence, où est-ce que les gens peuvent te trouver et trouver tes travaux, tes recherches aussi?
Oui, donc pour l'aspect plus universitaire, ça va être sur mon site web www.florencehachelet.com. Mais pour l'aspect peut-être plus personnel, je suis une utilisatrice chronique des médias sociaux, donc on peut me retrouver sur Twitter où mon handle c'est But Not The City parce que je suis Florence, mais pas la ville. J'ai aussi sur Blue Sky où je crois que c'est Floral Ashes qui est mon nom d'utilisatrice. J'ai même un Tumblr puis un TikTok si vous êtes capable d'y trouver. Fait que ouais, je suis un peu partout sur l'internet en tant que de personne très dans le fond qui a grandi dans l'art Tumblr.
Et bien sûr, on peut trouver ton livre qui vient de publier « Gender Fucking, the Pleasures and Politics of Living in a Gendered Body ». Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux 2 semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Laetitia Dogby. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.